Chapitre 19. Fin de l'histoire de Rosette. Vous vous épousâtes donc ?
Et pas sans peine, reprit-elle. Le beau Jeannin, tout noir qu'il me parut, était l'espoir de la famille. On avait flairé pour lui chez les Soubeyran un mariage de convenance et notre amour imprévu venait déranger bien des projets. Quoique bohémiens de père en fils, les Soubeyran sont riches. Ils possèdent dans leur village de Vinon une belle maison en pierre froide. Ils logent à l'auberge quand ils voyagent et mènent parfois dans les foires des cordes de 15 à 20 chevaux. Mon père espérait d'eux une forte dot et parlait déjà de nous vêtir tous de neuf et de faire revernir la caravane. Aussi, au premier mot que dit Jeannin de ses projets, ce fut un vacarme. « Et à Soubeyran, malheureux !» Mais Jeannin déclara que je lui plaisais, moi, et que la Soubeyran ne lui plaisait point, avec ses cheveux roux et ses façons de demoiselle, que si l'autre avait des écus, nous saurions en gagner à nous deux, qu'enfin, on nous voyait décidés à tout, même à nous enlever et à nous marier devant un prêtre. Devant un prêtre, en entendant ce blasphème, mon père s'arracha les poils de sa grande barbe et les vieilles me crièrent leur malédiction en hébreu. Un si bas d'enfer! Mais Jeannin tenait bon, Jeannin se promenait de long en large, tranquille et traînant à chaque jambe une grappe de marmots qui hurlait de terreur. Enfin, la tempête s'apaisa et le soir, j'en défigue, je me trouvais marié. Mais Marseille, où vous me cherchiez? Oh, je n'oubliais ni Marseille ni vous. Je me demande pourtant si jamais j'y serais arrivé sans une bienheureuse aventure qui vint me délivrer tout à la fois de ma nouvelle famille, des chevaux borgnes et de Jeannin. C'est à la Sainte-Baume que la chose se passa. Nous étions allés là, notre lune de miel à peine écoulée, et je vous prie de croire qu'elle ne dura guère, car au bout de 3 jours, nous nous battions comme 2 diables sous le pont. Nous étions allés là voir s'il n'y aurait pas quelque bon coup à faire pour la fête. Les occasions ne manquent pas. Il y vient tous les ans des pèlerins en grand nombre et des bohémiens autant que de pèlerins. Chacun campe où il peut, autour de grands feux, sur l'herbe. Les chevaux, les mulets et les ânes mangent, attachés un peu partout, aux arbres, aux rochers, aux brancards des charrettes. Les gens écoutent des messes, suivent des processions, ripaillent et boivent, et cela dure ainsi plusieurs jours. S'il meurt par hasard quelque bête dans l'intervalle, ce sont les bohémiens qui héritent de la peau. Précieuse aubaine, aussi de temps immémorial, avions-nous sur ce point l'habitude d'aider un peu à la nature. On se promène, la nuit, innocemment, autour des feux, on jette quelques menues branches d'ives dans le foin que mangent les bêtes meurent à l'aurore. Mais on use de discrétion, car encore, ne faudrait-il pas qu'il en mourût trop. Cette année-là, paraît-il, quelqu'un de nous eut la main pesante et les montures, un beau matin, se mirent à tomber comme des mouches. On se fâcha, les gendarmes vinrent, arrêtant tout dans la caravane. Par bonheur, j'étais dans le bois à ce moment, je vis la bagarre de loin et l'occasion me sembla bonne de reprendre le chemin de Marseille. « Enfin !» soupira Jean des Figues. « Nous partîmes donc, » continua Rosette.
« Comment cela, Rosette, vous partîtes ?»«
Il faut vous dire, » répondit l'enfant devenu toute rouge, « que je n'étais pas seule dans le bois. Il y avait aussi Jourian Soubeyran, un ami de mon mari et le propre frère de celle qu'on avait voulu les faire épouser. À Marseille, Jourian me perdit. Je me mis alors à vous chercher, Jean des Figues, et tout en vous cherchant, je fis la rencontre de 2 matelots qui voulurent m'embarquer avec eux, puis d'un bédouin, puis d'un chinois, car il y a là-bas toutes sortes de monde, et puis encore d'un gros fabricant de sucre, estimé dans son quartier, et gros et bon, qui commença par me promettre des bijoux et qui finit par me vendre, comme si Marseille était en Turquie, à un vieux pirate grec retiré des affaires et qui ressemblait au Père Éternel.
Vous vendre le brigand?
Oh, je ne lui en veux pas, dit ingénument Rosette, car avec le vieux grec, je me trouvais bien heureuse. C'est lui qui me donna mes chemisettes, ma robe d'or. Nous habitions une petite maison, près de la mer, au Roucas Blanc, sur le chemin de la Corniche. En ce temps-là, Jean des Figues, j'allais en voiture tous les jours. Par malheur, mon maître avait chez lui un petit Turc méchant comme une femme qui lui allumait sa pipe et lui retirait ses pantoufles. Croiriez-vous que le petit Turc devint jaloux de moi? J'ignore bien pourquoi, par exemple. Il déchirait mes robes, il me battait et faisait au capitaine des scènes d'enfer. La vie devint bientôt impossible. Enfin, le pauvre vieil homme, un beau soir, me glissa une bourse dans la main et me mit à la porte de chez lui en pleurant sur sa belle barbe. Il me fit peine, je l'embrassai. Ce monstre de Turc riait au balcon. J'entre au café en sortant de là, je lis dans un journal que vous êtes à Paris, Jean des Figues. Je pars avec le costume que j'ai et qui n'étonnait personne à Marseille. Tout le long de la route, le peuple, pour me voir, s'assemble aux gares. J'arrive à Paris, les gamins me suivent. Je me jette effrayé dans une voiture. Comme nous sommes en plein carnaval, le cocher, sans rien lui dire, me conduit au bal tout droit, me prenant pour un masque. Et j'y étais encore, il y a 2 jours, en train de rire avec des étudiants, quand je rencontrai ce brave garçon de Nivoulas qui me promit de me rendre heureuse. « Oh, mon premier amour !» soupirait Jean des Figues. « Que d'aventures, en plein 19e siècle !» s'écriait Nivoulas, émerveillé.